Voici le cinquième épisode du Petit Guide du podcast. Voilà de retour avec Boris Proulx, micro, et François Larivière. Salut François.
Salut Boris.
Comment ça va?
Ça va bien toi?
Oui, très bien.
Tu as passé une belle fin de semaine?
Très belle fin de semaine, oui. Toi-même?
Oui, bien...
Rempli de podcasts?
Rempli de podcasts, rempli de Game of Thrones. Je suis tombé là-dedans.
Ah, ouais.
Ouais, j'essaie de me le clencher. Là. J'ai un abonnement à Crave, puis là, j'essaie de me le clencher en deux mois, essayer de me rendre, parce que j'ai commencé ça. Moi, j'ai vu que c'était comme bien populaire, puis j'ai décidé d'écouter ça, puis là, j'essaie de justement de me le bench-watcher.
J'ai entendu dire possible. Qu'il y avait beaucoup de podcasts de Game of Thrones. Un jour, tu pourrais peut-être nous faire une petite critique.
Bonne idée, ouais. Sinon, il y a dimanche, il y avait la fête des mères aussi.
Ouais.
Ben, j'en ai profité pour passer mon dimanche avec ma mère puis ma famille.
Je pensais que tu allais dire que tu avais choisi une balado-diffusion qui est thématique.
Certainement, je suis très thématique et j'ai trouvé deux podcasts en fait qui est sous le thème de la fête des mères.
Et avant de t'entendre nous raconter ça, oui. J'en profite pour remercier notre invité de la semaine passée, Olivier Charbonneau. Oui. C'était le fun, hein?
C'était trippant. Vraiment, vraiment le fun.
Notre épisode qui portait sur Cube Radio la semaine dernière. Puis. On s'est dit avant, hors d'onde, là, avant de commencer le podcast, que ça serait le fun d'avoir d'autres invités comme Olivier.
C'est vrai.
Donc, si vous êtes à l'écoute et que vous tripez podcast comme nous, balado-diffusion, ou si vous êtes artisan aussi du milieu, pourquoi pas, hein, écrivez-nous. Hein, je sur Instagram, sur Twitter, j'y suis @BorisProulx. Ou alors Facebook, hein? François Larivière.
Vous pouvez le trouver sur Facebook. Moi, j'ai pas de Twitter.
Ouais, tu m'as dit ça avant de commencer l'épisode.
Ça se peut que je m'en fasse un, ouais.
Ah ouais?
Mais ouais, puis on cherche aussi des gens. Si jamais il y a des gens qui font beaucoup de recherches comme nous, puis ils ont trouvé des perles rares, on aimerait ça les entendre, ceux-là aussi, tu sais. Fait que, ben, je peux commencer, moi, dimanche, passé, c'était la fête des mères, puis...
Bonne fête, maman.
Bonne fête, maman. J'avais pensé vous parler du balado « How to be a girl ». Ça, c'est probablement la découverte, la plus belle découverte, en fait, que j'ai faite depuis un bon moment, sans niaiser, là, je pèse mes mots. C'est à propos d'une mère, puis de son enfant. Ça nous parle de quête d'identité, d'acceptation de soi, à propos de courage, de s'assumer, de faire... ça parle de différence, mais ça parle aussi de ce qui nous rassemble tous.
C'est un podcast d'entrevue? Non, c'est un documentaire.
C'est une... Je te dirais que c'est quasiment de la balado réalité.
Hein?
Ouais, je sais pas si j'invente le nom en ce moment, mais c'est très, très intime. En fait, ça se veut anonyme parce que la mère veut garder son identité puis celle de sa fille secrète, pour l'instant du moins. La mère va se nommer fictivement Marlo Mack, puis elle nous raconte comment c'est d'avoir un enfant qui est né, qui pense qu'il n'est pas né dans le bon corps, comment c'est d'avoir la réalité d'un parent qui doit composer avec un enfant transgenre.
Ah ouais, et c'est elle-même qui fait la balado.
Elle-même qui s'enregistre.
Et qui le vit.
Qui le vit.
C'est elle la journaliste, est-ce que c'est produit par quelqu'un ou c'est indépendant?
C'est indépendant. Ouais.
Wow! Mais donc, elle a vraiment fait son projet « Je vais documenter ça en podcast ».
Ouais, puis au fur des années, on entend les épisodes s'échelonnent sur plusieurs années. Puis c'est vraiment un accès là, complètement intime, complètement privilégié. Puis c'est un phénomène qui est récemment, qui est assez nouveau. Hein. Les transgenres dans le podcast, ils disent que c'est la première génération qui ont le droit de se déclarer transgenre. Fait que, tu sais, il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites à ce sujet-là. C'est un peu les cobayes de la société dans laquelle on vit maintenant. T'sais.
Surtout à cet âge-là, parce que tu m'as dit quoi, que ça a été déclaré à très jeune âge, je crois.
Mais écoute, ça, le petit gars qui est très jeune veut être une fille, le dit à sa mère alors qu'il a seulement 3 ans.
Fait qu'à 3 ans, il, ou en tout cas, on peut
maintenant dire elle, ouais.
Pour la suite de la discussion. Donc, elle
s'est rendu
compte qu'elle était une fille. Ouais.
À 3 ans, ouais. Puis le titre « How to be a girl », ça provient d'un questionnement de la mère. En fait, c'est comment je vais faire pour apprendre à mon fils à être une fillette. Tu comprends-tu?
Oui, oui, oui.
Puis la façon dont le sujet il est présenté, il est d'une douceur là, désarmante. On entend la mère nous raconter ses peurs, ses questionnements, ses doutes. Puis c'est un moment de réflexion parce que toi et moi, Boris, on n'est pas parents, hein, à ce que je sache.
Non, à ce que je sache, non.
Mais imagine deux secondes que ton petit-fils te dit qu'il se sent comme une fille dans un corps de gars. Comment tu fais? Comment tu réagis? Est-ce que tu le crois? T'sais? Est-ce que tu lui laisses seulement la possibilité d'aller plus loin dans sa réflexion? T'sais? Puis si jamais toi, tu dis « OK, ben, j'accepte, j'embarque dans le bateau », ben comment tu deals avec l'entourage? T'sais?
Elle se pose ces questions-là, la maman, dans le podcast.
Elle les vit aussi, tu sais.
Avec l'incompréhension, disons, des voisins, famille, amis.
Puis elle aussi, tu sais, au début, elle est pas vraiment réceptive. En fait, ça y prend 12 mois. Ça y prend une année complète à dire à son petit gars, écoute, c'est un peu... tu le sais pas, là, t'as 3 ans, toi.
Ouais.
Tu comprends-tu? T'es un petit gars.
Il sait pas là, que ça existe, des transgenres, etc.,
non,
dans la société.
Mais lui, ben elle, se sent comme une fille.
Ouais.
Fait que pendant 12 mois, la mère, elle insiste pour que, t'sais, qu'il comprenne en fait que c'est un petit gars, mais finalement, après un an, elle se dit, bon ben, si tu crois,
elle
accepte que c'est elle. Marlo, elle veut une petite fille heureuse, elle veut pas un petit garçon triste. Puis ça, c'est vraiment ce qui a retenu mon attention, là. C'est ça qu'elle dit, t'sais. Parce que sa petite fille est heureuse, parce qu'elle s'aime, parce qu'elle est aimée, parce que quand tu te bats pour quelque chose... T'as tendance à l'apprécier plus que quand tu l'obtiens que si tu t'es pas battu pour, tu sais. Puis le taux de suicide des gens qui sont pas nés dans le bon corps est affreusement élevé. La mère veut surtout éviter justement une profonde dépression de sa fille, fait qu'elle embarque. Puis les épisodes s'enchaînent. On les suit lors de la rentrée à la garderie, commencer de devoir expliquer aux autres parents la situation. Puis ensuite, le changement d'attitude, genre, ben les parents, ils ont peut-être pas besoin que je me justifie tout le temps, puis que je justifie aussi les choix de mon enfant, mm-hmm. tu sais. Fait qu'elle passe à travers tout ça. Puis dans cette même période-là, Marlo doit expliquer à sa petite fille c'est quoi d'être enceinte. Puis elle doit aussi expliquer qu'elle ne sera jamais,
ouais.
parce que c'est évidemment si elle n'est pas équipée pour. Fait que je peux vous faire écouter un extrait.
Like the fact that if she really does want to be a woman, she will never have babies of her own. She hasn't got a womb, and the hormones she will take will render her sterile as a male.
And then she says, and then I say, here she comes, and basically I push the baby out, and then.
I just don't want to tell my kindergartner that. I'll have to tell her eventually. But not yet.
Tu réalises-tu, Boris?
Mm-hmm.
Combien tout est différent avec un enfant transgenre, tu sais?
Et elle a quel âge, pardon? L'enfant a quel âge là-dessus?
À ce moment-là, 6 ans.
Donc, OK, ouais.
Explique qu'elle ne pourra pas jamais avoir d'enfant, tu sais? C'est complètement surréaliste. Puis ensuite, plus tard, vient la puberté, hein, les pulsions sexuelles, l'orientation sexuelle qui a strictement rien à voir avec la quête d'identité parce que, comme nous explique la mère, tu peux te sentir comme quelque chose et être attiré par quelque chose d'autre. Hein, c'est très différent.
Mm-hmm.
Puis l'épisode passe, plus la petite fille a vieilli. À un moment, elle n'aime plus les princesses, elle ne veut plus porter de jupe, elle commence à préférer la couleur bleue et le pantalon. Puis là, la mère se demande si peut-être sa fille veut redevenir un petit garçon.
Peut-être elle regrette, elle se repose des questions sur son identité rendue plus vieille.
Oui, puis d'ailleurs...
Et elle a quel âge, là, rendue là?
Je ne me rappelle pas à quel âge exactement.
Mais les années sont passées.
Il y a quelques... en tout cas, c'est sûr que le temps a passé, tu sais. Puis je me rappelle d'un article que t'as parlé récemment, qui est paru sur le site web de Radio-Canada, Boris.
Ça s'appelle « Je pensais que j'étais transgenre ». Je me demandais quand j'allais le plugger.
Oui, vas-y donc.
Ben, c'est ça, on en a parlé ce matin à la radio, en fait. Puis puisque c'était ça le sujet, tu m'as dit « on t'en parlera dans la balado ». Parce que ça parle, cette enquête-là d'Émilie Dubreuil à Radio-Canada, ça parle de les enfants qui deviennent transgenres, mais qui regrettent leur choix par la suite. Donc, ça évoque à peu près tous les thèmes que tu viens de raconter, c'est-à-dire l'incompréhension des proches, la prise d'hormones en bas âge. Donc, c'est une tendance qu'on voit au Canada ou aux États-Unis de commencer la thérapie dès que le jeune le sait, ou en tout cas, peut-être dans les premières années, ce qui signifie peut-être vraiment les enfants. Là. Et tout le questionnement que ça apporte, parce que certains, ça existe, là, ils évoquent 2-5% des enfants trans, quoique il n'y a pas d'études sur le sujet, regrettent par la suite et certains reviennent à leur genre d'origine après avoir fait la transition. Donc, il faut faire un deuxième coming out. Tu peux t'imaginer là, ce que ça signifie comme, ben, comme questionnement ou bon, détresse aussi là, qui est associée à ça. Et dans l'article, il y a la transgenre québécoise assez connue, Michèle Blanc, qui était candidate du Parti québécois à Montréal et qui raconte qu'elle-même le savait à l'âge de 3 ans. Donc, c'est drôle parce qu'elle dit dans l'article exactement 3 ans, elle le savait qu'elle était une femme là, dans son corps de garçon, finalement.
Puis ça peut pas être une mode, tu sais. Tu peux pas être... la société peut pas te donner des idées préconçues à cet âge-là. Tu le sais ou tu le sais pas, tu sais. Puis à cet âge-là, l'identité, tu peux pas concevoir que t'es dans un corps de petit garçon. T'es une fille, tu sais.
Le fait que ça existe, les personnes qui s'appellent eux-mêmes les détransitionneurs...
Détransitionneurs, ouais.
Ben, ça doit poser des questions aux parents, comme tu dis.
Mais exactement. C'est ça aussi. C'est un méga questionnement pour les parents parce que les parents, eux autres, là, ils doivent faire un autre deuil, dans le fond, parce qu'ils font le deuil de leur fils. Puis après ça, il faut qu'ils fassent le deuil de leur fille parce que leur fils va redevenir un gars.
Ouais.
C'est vraiment difficile pour les familles, tu sais.
Ouais.
Puis dans le cas de la petite fille de How to Be a Girl... Elle explique à sa mère que, en fait, c'est pas la couleur préférée ou tes goûts vestimentaires qui définit ton identité, là, que ça n'a aucun rapport. Là. Elle sait au fond d'elle-même que même si elle aime la couleur bleue, puis elle aime les ninjas, puis tout ça, ben c'est une fille. Fait que c'est vraiment profond comme identité, tu sais.
Mm-hmm.
Le podcast aborde d'autres sujets aussi, là, rapidement. On parle des relations amoureuses. La mère qui est nouvellement séparée, puis elle cherche un homme. Puis ce gars-là doit être quelqu'un qui comprend, évidemment, puis qui est ouvert. Puis elle rencontre quelqu'un, puis lors d'une date... Elle lui dit que ben elle a une fille transgenre puis que la discussion elle se poursuit puis plus tard le gars il revient il dit attends c'est ta petite qui est transgenre hein c'est pas toi puis là la mère elle s'empresse de dire non c'est pas moi qui est transgenre c'est ma fille tu sais puis là elle dit qu'elle regrette tu sais de sa réaction parce qu'elle a l'impression qu'elle a trahi sa fille parce que dans le fond elle a
internalisé le fait que mais je suis en date je veux pas paraître comme une transgenre
ben c'est ça fait que non c'est pas moi là hey c'est pas
elle
moi
elle se rend compte qu'elle a ses propres préjugés
exact fait que c'est puis là elle se dit ma fille quand elle va être plus vieille elle va avoir les mêmes discussions mais ça va pas être la même réponse tu sais comment qu'elle va faire pour faire ces genres de dates là genre de discussion là c'est fou. En tout cas, fait que je vous invite vraiment à écouter ce podcast là parce que je pense que c'est pour tout le monde. Oui, ça aborde des sujets où il y a des différences là, on vit pas toutes les mêmes choses évidemment, mais il y a quand même ça englobe des thèmes qu'on ça nous rassemble tous, c'est l'amour, l'acceptation de soi, tu sais. Fait que voilà, je vous invite à l'écouter. Je vous rappelle c'est quoi le nom du podcast, How to Be a Girl,
en anglais bien sûr.
En anglais évidemment.
Écoute, tu parles d'acceptation, tu parles aussi de faire découvrir des nouvelles réalités, identité sexuelle. Est-ce que tu veux qu'on poursuive tout de suite avec mon podcast LGBTQ que j'ai choisi pour aujourd'hui? Puisque tu m'avais raconté le thème du tien, parce qu'on va parler un peu plus tard du podcast Le nom de ma mère.
Oui.
Je ne l'ai pas dit dans l'introduction, j'aurais dû, mais je me demandais dans quel ordre on allait les faire. J'ai envie de te parler de Chosen Family. Est-ce que ça dit quelque chose?
Non, ça ne me dit rien.
C'est un... podcast que moi, j'ai connu au Festival Transistor, Festival de la radio numérique de Gatineau, pour lequel, full disclosure, j'ai un peu organisé puisque j'étais dans... je suis sur le conseil d'administration, à vrai dire. Et il y avait dans la programmation ce podcast-là, Chosen Family, je me demandais c'était quoi, un podcast LGBT, et... Comment dire, pas que j'étais pas... je me disais, ça me rejoindra pas, si tu veux, ou parce que je suis hétérosexuel, toi aussi.
Oui.
Et des fois, ben, c'est comme ça. Je pouvais pas imaginer que ça allait m'intéresser. Je pensais que ça allait juste être, si on veut, cette niche-là, en train de parler d'enjeux gays et lesbiennes. Et j'ai vraiment été impressionné. Je trouve que c'est d'excellente qualité. Et bon, je vous raconte... en tout cas, c'était malheureux d'avoir ses propres préjugés-là de moi-même, donc je le dis.
Mais c'est un peu normal, tu sais, je comprends.
Tu me pardonnes?
Oui, je te pardonne.
Donc, en podcast, toujours avoir l'esprit ouvert, c'est ça la conclusion. Écoute, c'est deux humoristes qui s'appellent Trana Wintour et Thomas Leblanc. Je peux vous lire un petit peu la description là, que j'ai retrouvée sur le web. Ils enregistrent ça au Centre Phi à Montréal, qui est un une espèce de lieu d'artiste. Je vous lis la description sur le site du Centre Phi. Un mardi sur deux, rendez-vous pour Chosen Family, une nouvelle série de podcasts créée par les deux personnalités montantes du milieu de l'humour montréalais, Thomas Leblanc et Trana Wintour. Deux fois par mois, Chosen Family présente des conversations, des entrevues, du storytelling devant public et une revue de l'actualité culturelle qui met en lumière l'importance d'amitié, de la résistance et de la communauté à l'intersection de l'art, du genre et de la sexualité. Okay. Donc, c'est la description la plus complète que j'ai vu du temps qu'ils étaient indépendants parce qu'ils ont été produits ou ont été achetés, je ne sais pas comment ça marche, mais chapeautés par CBC. C'est devenu un podcast de CBC et ils ont annoncé au Festival Transistor qu'il y aura une autre saison. Donc, pour l'instant, en ligne, il n'y a que la première saison de Chosen Family. Et très bientôt, en 2019, il y aura donc cette deuxième saison. Ce qu'il y a de particulier avec ça, c'est que c'est un show bilingue. Donc, une balado-diffusion bilingue. Je reviendrai dans un instant, principalement en anglais, avec un nom comme ça, on peut se l'imaginer. Pour la petite histoire, je suis allé voir sur Internet Chosen Family, ça vient d'où ça? Et puis, c'est une expression couramment utilisée dans le milieu LGBT pour dire... ta famille que tu as choisi pour des proches que tu considères comme ta propre famille, même si tu n'as aucun lien biologique ou légal ou autre, mais tu les considères comme tels parce que c'est devenu un petit peu ton entourage immédiat. Donc, ça vient un peu de là. Et Thomas, qui est un ancien de Radio-Canada, et Trana, se considèrent comme des âmes sœurs professionnelles, etc. Et puis, on dirait qu'on fait partie quasiment de leur famille en les écoutant, tu sais, parce qu'il y a vraiment une proximité ou une chimie entre les deux. J'ai oublié de le préciser, mais bon, Trana est une personne transgenre et Thomas est homosexuel, puis il en parle de ça dans leur podcast. Il y a un épisode qui a été enregistré devant public au Festival Transistor, je le disais il y a un instant, et qui était très très drôle, où Trana et Thomas ont invité deux frères drag queen du milieu... des drag queens d'Ottawa, donc je savais même pas que ça existait, et qui racontaient leur vie en tant que frères et drag queens. Donc, ils parlaient de cette industrie à Ottawa, de où ils faisaient leurs spectacles et compagnie, de comment est-ce que ça se passait dans la famille. Donc, c'était très drôle en tant que tel de voir ça devant le public. Et puis ensuite, ils ont parlé de Britney Spears, qui... Ouais, et donc ils passent comme ça du coq à l'âne. On peut dire des... pas des fascinations, mais presque des obsessions pour certains sujets comme Céline Dion et Britney Spears. Okay. Donc Britney Spears, apparemment, ils ont dit dans le podcast qu'elle était... Là, ça, c'est quand même dommage, mais elle a des problèmes de maladie mentale et elle est hospitalisée contre son gré en ce moment. Donc, il y a des gens qui lui font prendre des médicaments et tout ça. Et puis, il y a toute une théorie de conspiration construite autour de ça qui veut libérer Britney Spears. Donc, ils parlaient de ça dans leur podcast. Et moi, au festival, j'étais un peu en charge de la technique. Donc, je faisais la technique du show. Donc, il m'avait demandé de faire passer la musique Baby One More Time. Ça m'a tellement fait rire. Et puis, bon, la technique était... on point pour ce show-là, Frank.
Ah oui, je te crois.
Mais c'est pas ce clip-là que je vais vous passer aujourd'hui. Je vais plutôt vous passer le clip de quand ils se sont rencontrés, Trana et Thomas. C'est dans l'épisode où ils reçoivent Christiane Charette, l'animatrice, qui est leur première invitée francophone. Donc, j'ai fait un petit montage où on entend l'introduction du show et on entend le passage à l'interview de Christiane Charette. Et il raconte comment Thomas raconte comment il a rencontré Trana. On écoute.
You're listening to Chosen Family.
It's a podcast.
It's a live Facebook thing.
It's a way of life.
And it's produced and presented by the amazing people at Phi. I'm Trana Winter.
I'm Thomas LeBlanc.
And this is our show!
This is the moment, Trana, our first interview in French. With Christiane
Charette. I know,
Charette.
I survived.
So we recorded it earlier. Christiane's phenomenal. Do we need to say anything else?
No, let's just listen.
Je vous parle en français parce que c'est notre première invitée francophone. Bonjour Christiane Charest.
Bonjour Thomas Leblanc.
On se connaît bien, on a travaillé ensemble et j'avais vraiment envie que tu rencontres Trana Wintour, ma collaboratrice, mon âme sœur de stand-up et de comedy. Trana, Christiane, Trana.
Enchantée, Christiane.
C'est vraiment Céline Dion qui a fait que vous êtes rencontrés?
Ben, en fait,
ou c'est une anecdote pour...
Non, c'était une vraie histoire.
Mais on a quand même eu une rencontre avant, mais c'est Céline Dion qui nous a vraiment unis.
Mais en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, Christiane, c'est dans le party de Noël de quelqu'un que tu connais, qui s'appelle Puello Deer, qui a fondé le festival Diversité, qui est une légende de la vie gay au Québec, que tu as reçu à la télévision dans les années 90.
C'était à la radio.
À la radio.
Et puis je pense qu'il était à McGill à ce moment-là, puis je l'avais trouvé, mais tellement bon. Tu sais, un invité, là, payant, vraiment.
Toujours aussi inspirant. C'est un ami de Trana, c'est un de mes amis. C'est devenu mon ami après que tu m'en aies parlé. T'arrêtais pas de m'en parler. On travaillait ensemble à 125 Marianne. Tu me disais Puello Deer. Là,
j'ai toujours voulu le réinviter parce qu'un invité de cette qualité-là, tu sais, t'es oublies pas. Puis je me suis toujours dit de prendre un prétexte pour le recevoir. Finalement, c'est jamais arrivé.
C'est jamais arrivé. Mais qui sait?
Donc voilà, tu t'entends la transition du balado anglophone à tout simplement une entrevue en français.
Mais je me dis pourquoi pas, parce que du côté français, on le fait souvent, ça, prendre des extraits en anglais, puis ça passe. Mais
on le fait
ça
dans notre émission.
Oui.
Tu sais, et ça a même été une discussion, toi et moi, de bon, est-ce qu'on passe des bouts en anglais, tu sais, parce qu'on écoute, toi et moi, on est bilingue, on écoute beaucoup de podcasts en anglais. Et eux le font, tout simplement, dans leur podcast.
Tant
mieux. Comme ça, sans crier gare. Et on entend aussi le petit accent West Island de Trana, alors que Thomas, lui, est francophone, mais parfait en anglais. Et Christiane Charest, qui n'est pas gay. Je dois dire, quand j'ai vu la liste d'invités, je me suis dit, ah, est-ce que ça a rapport? Donc, comme ça, ça n'a pas toujours rapport. C'est pas... c'est pas ça toujours nécessairement le sujet. Il en parle beaucoup, évidemment, mais c'est pas un statement, si tu veux, ou c'est pas quelque chose exclusivement sur qu'est-ce que ça fait être gay, qu'est-ce que ça fait être transgenre. Non, des fois, ça, c'est juste comme avec Christiane Charest, où il parle d'une variété d'affaires. Là, dans l'épisode, elle parle de son angoisse, sa peur des caméras. Elle était d'une espèce de phase où les caméras l'angoissaient. Écoute, elle parle de son père où elle n'aurait pas pu faire son métier si son père était encore en vie parce que son père la verrait comme ça être torturée puis elle serait pas capable d'être une personnalité publique. Donc, ça va très en profondeur. Beaucoup d'émotions dans l'entrevue. C'est un podcast d'entrevue après tout. Oui. Et je l'ai trouvé vraiment très bon, très intéressant, mais pour les gens qui, comme nous, sont très habitués au bilinguisme, par exemple, à cette écoute-là de l'anglais et pouf, on switch en français. Je trouve que c'est parfait pour une audience montréalaise, une audience québécoise des grandes villes. Est-ce que c'est universel au Canada même?
Est-ce que ça arrive
même
souvent ou c'est par parcimonie?
Il y a quelques invités qui sont en français dans le balado qu'ils ont lancé à Transistor, qui est le premier de la saison 2. Ils commencent tout simplement en français. Puis ils se font les salutations comme ça en français. Puis les invités, ils sont anglophones. Poup, ça switch comme ça, parce que c'est des frères d'Ottawa. Donc, comme quoi, des fois, je me demande, est-ce que dans le reste du Canada, tu sais, à Toronto, à Vancouver, ils vont écouter ce podcast-là de CBC puis ils vont être un peu choqués par cette transition-là absolument brutale au français? Et à contrario, est-ce qu'au Québec, en général, à l'extérieur, peut-être des milieux plus anglicisés ou en tout cas plus instruits, ça va mal passer? Je me doute que c'est pas pour tout le monde, finalement.
Ouais. Mais moi, je salue l'audacité de ces personnes-là. Je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Je trippe sur le concept. Je vais en écouter une couple d'épisodes, je te dirais. Juste à cause de ça, je capote. Je trouve ça vraiment cool.
Puis c'est le fun de voir de la diversité dans le monde du balado, alors qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde des médias traditionnels. C'est ma petite parenthèse. Ça s'appelle Chosen Family. C'est un podcast de CBC. La deuxième saison s'en vient en 2019.
Dans cette série de balado en 5 épisodes, j'explore un phénomène qui me fascine. Le nom de famille composé au Québec et sa possible disparition. J'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là quand plusieurs femmes de mon entourage sont devenues mères. Quand je leur demandais quel nom de famille leur enfant allait avoir, elles me répondaient toujours « Ben, celui de mon chum ». Je me demande si c'est une nouvelle tendance. Est-ce que c'est fini, ça, le nom de famille composé? Si le nom de famille double a été assez populaire à une certaine époque au Québec, moins de 10 % des couples choisissent cette option pour leurs enfants aujourd'hui. Ça veut donc dire que les filles de mon âge renoncent davantage à donner leur nom de famille à leurs enfants que ceux de la génération précédente, la génération de ma mère. Pourquoi c'était si important pour les mères des années 80 de transmettre leur nom de famille à leurs enfants? Et pourquoi, pour les mères de mon âge, c'est presque rendu sans importance?
Je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais c'est Marie-Hélène Frenette-Assad de Transistor. Elle qui, entre autres, a été derrière le dernier festival Transistor. Vous la connaissez peut-être, entre autres, pour des projets comme FDIs, qui est un excellent podcast aussi sur les artistes féminines.
Toi, tu l'as connue comme ça, Marie-Hélène?
Marie-Hélène, je l'ai connue à travers Transistor quand j'ai fait une couple de projets avec eux. Puis là, on la suit dans ses interrogations au sujet de son nom de famille. Parce que
quand t'as passé l'extrait, je me suis dit, c'est tellement ça.
C'est exactement ça.
Les noms composés hyper longs qu'on voyait dans notre classe, bon, ni toi ni moi avons un nom composé, mais les noms, les doubles noms de famille, c'était la norme, là, moi, à l'école. Là.
C'est vrai, dans notre génération. Puis ce qu'elle dit, elle, c'est que ça tend à disparaître, qu'il y a seulement 10 % des gens maintenant qui donnent des noms composés à leurs enfants. Puis... au départ, c'est drôle, elle dit mon prénom, mes parents ne savaient pas comment m'appeler, mais ils savaient tout de suite que c'était pour être Frenette Assad. Puis on apprend dans le fond que le nom composé, ça vient d'une réforme en 1981, qui est le nom le titre du premier épisode du balado, sur les droits de la famille, en fait, cette réforme-là. Puis en gros, ça faisait que le père... Il n'était plus symbole de maître de la famille patriarcale.
Et là, on parle de 1981 dans le podcast.
C'est pas si loin, là.
Moi, ça m'a fasciné d'apprendre, parce que par cet exemple singulier qui est le double nom de famille, qui est très particulier au Québec, ça montre aussi que c'était super féministe.
Ouais.
Donc, ça en dit long sur notre histoire, mais aussi notre société, tout ça, de ce que ça voulait dire avoir deux noms.
Exact. Mais bref, à partir de cette date-là, de cette réforme-là, les femmes avaient l'option maintenant de donner leur nom de famille parce que c'était rendu quelque chose qui pouvait se faire. Puis justement, il y avait même des règles qui disaient « Hey, on pourrait peut-être justement rendre ça la norme que ce soit les noms de famille. » Puis finalement, c'est ça. Les noms composés, ça vient vraiment d'une bataille féministe, tu sais. Puis là, pourquoi aujourd'hui, en ce moment, ben ça tend à disparaître, tu sais. Puis c'est vraiment la question qu'elle se pose. Puis on va la suivre pendant 4 ou 5 épisodes, je me rappelle pas trop.
Je pense qu'elle a dit 5 épisodes. Le premier est déjà sorti en date aujourd'hui du 13 mai. Je pense que ça va sortir jeudi le deuxième.
Okay.
Ça t'a donné envie d'écouter le deuxième?
Moi, j'ai complètement adoré là, le montage aussi, là, comment que le sujet nous est apporté. Là, c'est vraiment, vraiment trippant. Puis la narration aussi est excellente. Là.
C'est bien écrit.
Bien écrit.
Il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est qu'elle parle de sa propre famille. Un moment donné, elle a vu sa tante à la télévision, puis elle a demandé « Pourquoi ma tante est à la télévision? » Puis sa mère a dit « Ben, parce que c'est une féministe. » Puis bon, sa tante était avocate féministe connue au Québec.
Qui a travaillé sur le projet de la réforme du droit de la famille.
Oui, c'est pour ça qu'elle passait à la télévision. Ouais. Puis là, Marie-Hélène a dit à l'âge de 5 ans, je me suis dit « Ah, ben c'est ça que je veux faire dans la vie. » Féministe.
Ouais.
Donc, je trouvais que ça illustrait bien la fille et full disclosure qu'on connaît, oui. Là, qui fait partie de Transistor, qui a organisé le festival de radio numérique dont j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de parler parce que ça fait pas si longtemps
tant mieux.
Que l'édition 2019 est passée, mais c'est ça. Bon, je travaille avec Marie-Hélène à l'occasion, j'ai pas travaillé sur son balado, mais j'ai entendu le teaser en exclusivité. Donc, je l'ai vu avec les traits tirés puisqu'elle a travaillé très très fort sur le projet. Je suis très emballé. Moi aussi, j'ai adoré ça. J'ai très hâte d'écouter les autres épisodes. La barre est haute, on doit dire.
Ouais.
Et ce qui m'a fasciné, c'est qu'elle a été très bonne pour faire la promotion de son podcast. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais je trouve qu'on en a beaucoup entendu parler ces temps-ci. Par exemple, l'été de passage, je crois, on dira ce qu'on voudra. De mémoire, là. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je trouve que ça a beaucoup roulé sur le web. Elle a fait un bon pitch, dont celui-ci qu'on va entendre dans un instant.
Et là, on va terminer avec... on va faire un peu de convergence. Québécois le fait bien. Ça leur profite. Il y a autour de la table quelqu'un qui s'est rajouté, Marie-Hélène Frenette-Assad. Bonjour, Marie-Hélène.
Allô, Fred.
Vous êtes, on va se vous voyez, bien que... Vous êtes un peu le l'hydre à deux têtes de Transistor Media, cette compagnie qui veut prendre le contrôle mondial de la balado, vous l'avez déjà dit.
Exactement, à partir de Gatineau.
À partir de Gatineau.
Tout à fait.
Donc, tu vois, Marie-Hélène Frenette-Assad était invitée au balado de Fred Savard, oui, produit par Transistor. Et là...
Convergence.
Il fait des blagues avec ça, évidemment. Bon, Fred Savard avec sa personnalité. Mm-hmm. Mais il n'y a pas tort, dans le sens que le balado a beaucoup de difficultés avec la découvrabilité, oui, là, oui, cette espèce de mot...
D'où notre projet aussi, d'où notre mission.
Oui, exactement.
Aussi,
personne ne connaît le petit guide du balado, à part le monde à qui on en a parlé essentiellement. Mm-hmm. Mais c'est comme ça que ça commence. Mais oui, il faut apprendre, je pense, dans l'industrie à s'entraider, oui, parler des autres podcasts ou même être invité aux autres podcasts, mm-hmm, pour faire de la cross-promotion de cette manière-là. Mm-hmm. Et puis, je trouve que... je pense pas que Transistor ait une espèce de plan super élaboré pour ça, mais je pense qu'ils essaient. Et ça, c'est, ça en est un des indices. Et puis, je dis oui à ça. Moi, je pense que c'est bien de faire comme ça, d'en parler, puis j'espère que le médium va continuer à progresser un peu, notamment grâce à ça.
C'est déjà fini, François.
C'est déjà tout, Boris. Puis en plus, je vais vous teaser le sujet de ma prochaine suggestion. Ça va être La Bombe, un podcast réalisé par Gabriel Allard et monté par Cédric Chabuel. J'en avais déjà parlé.
C'est dangereux, ça.
C'est très dangereux. C'est super bon. Je vous dis même pas c'est quoi. J'ai écouté deux épisodes, je capote.
C'est dangereux de nous dire déjà c'est quoi, au cas où tu changes d'idée.
Ah non, tu vas voir, c'est super bon.
OK. Ben là, t'es engagé. Chose promise, chose due, François.
C'est ça, exactement.
Ben oui, on vous promet qu'on sera de retour la semaine prochaine sur toutes les plateformes. En fait, j'ai envoyé la demande à Spotify. T'as peut-être vu ça. Ça fait,
oui,
ça fait quoi, une semaine ou quelques jours, en tout cas.
Ouais.
Ça prend un certain temps s'inscrire sur cette plateforme, donc on apprend en même temps les petits bidouillages de la réalité d'avoir un nouveau projet de podcast.
Oui, puis si vous voulez nous rejoindre aussi, c'est sur Facebook puis Twitter. Envoyez-nous des suggestions ou donnez-nous des questions. On va répondre à ça au prochain épisode.
Tu t'appelles François Larivière. Je suis Boris Proulx. Vous écoutez le petit guide du podcast et je vous dis bonne semaine.